Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Enfin, par les temps qu'il fait, c'est plutôt qu'il fasse chaud ou très très chaud. C'est plus mes pinceaux.
Et il n'y a plus que moi, parce qu'effectivement, j'étais
pour vous
accompagner. Les petits ne tiennent vraiment pas la chaleur, hein, la librairie dont nous tirons le nom, qui prétend avoir aujourd'hui besoin de faire un inventaire.
Ouais, ça, c'est une manière de fermer la porte.
Un inventaire, c'est là qu'ils vont se rendre compte du nombre de livres que nous y avons volés. C'est ça qui est un peu...
Ah bah oui, mais si vous l'avouez sur l'antenne aussi...
Ah oui, mince.
Il est con.
Oh, mon Dieu. On va dire que c'était une blague.
Ouais, bien sûr. Regardez nos deux yeux, qu'est-ce que vous voyez ? L'honnêteté.
Tout
voilà,
à fait.
Voilà. 532e émission.
Ouais.
De cette session estivale s'achevant. C'est peut-être la dernière d'ailleurs, hein. On se reverra peut-être à l'automne.
Ouais, sinon à moins que tant que les émetteurs tiennent, mais on dit qu'ils commencent à fondre.
Ouais. Donc tant qu'on est tous les deux pour cette dernière émission, on va vous proposer nos lectures, quelques actus et puis surtout aussi une interview. C'est la dernière interview qu'on avait réalisée à Quai des Bulles. Et c'est une interview
la
donc.
La dernière du samedi?
Ouais, du samedi, je crois bien que c'est ça. C'est une interview qui parle de Saint-Malo et qui s'est donc déroulée à Saint-Malo. En fait, Saint-Malo via Vauban. Vauban via Saint-Malo, Saint-Malo via Vauban.
Que serait Saint-Malo sans Vauban?
Ouais.
Elle serait anglaise, monsieur.
Nous y avons rencontré.
Monsieur Mignac, un vieux de la vieille au scénario.
Au scénario.
Et monsieur Rossetto.
Rossetto.
Au dessin. Et c'est rigolo parce que ça a été une année marquée sous le sceau de l'Italie parce que on a eu au moins deux ou trois autres auteurs originaires de la péninsule.
Un peu d'ibérique aussi, j'ai l'impression, dans mon souvenir.
Et un ibérique.
Ouais.
Mais c'est marrant. Comme quoi, il n'y a pas que la France et la Belgique.
Voilà. Une bande dessinée
classique.
Académique,
je dirais même.
Ouais, avec un côté historique et en même temps, c'était un thriller puisqu'il y a, en fait une conspiration qui vise Vauban, qui est venue fortifier la ville parce que on n'aime pas les Anglais. On a des soucis avec les Anglais. Bon, et puis il y a les traces de l'édit de Nantes aussi qui sont prises en compte. On a un fond historique qui est intéressant, quoi, en plus qu'il y a de l'histoire locale.
Tout à fait.
Et avec ce récit d'espionnage. C'est plutôt assez réussi. Donc vous entendrez ça en deuxième partie d'émission. Et puis on va s'écouter de la musique et parler BD. Alors on y va. The Sparklings. Ah ouais, un grand classique.
Step onto a snail, I know it is disgusting, but it is just how it feels when you're not anymore in control of your bad habits. When you're not anymore in control of your bad habits, and there is no way out. Yes, there is a way out. It is just not easy to get out of this cold. Going one way, no space to elude, no place, no food, no interlude. And I'm running, running, running. There's no reason, just running. I push myself from the one to the one, and then back to the one. Never waste time by choosing which one to go. Just follow the line, the sign that should be fine. And I'm touching me, I am touching myself. I try to feel anything, I can't feel it at all. And I don't listen anymore to the voice in my brain. I don't listen anymore to the screaming of my brain. It's not the taste, taste, taste. Just go on, you are like, don't miss the fake thing happening around you. Found you crying on the floor. I want more, more, more. Cause I like to suffer and I like to suffer. I like to suffer and 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 I. Look left, look right, turn around, don't smile. These are just sweaty, petty faces which squeeze past me. I try not to move, but they move me. Please stop it, I want to get out of here. This future is long gone, I am newborn and awake. I can do it. Whatever it is, just Body strain, nervous threats, I'm on my way. Mask with a body voice, just in suit. They wanna be big and I don't care about you. I ever look around, nobody is looking around. Only mad at news teams, laughing with a butterfly. Look into their eyes, they're shy, their lives are bad. You've grown up with this, ego shoots the set. It does sound like this and it will turn us all off. Only brain is competition, fall off a heart is decision.
Je trouve ce morceau redoutablement efficace.
Ouais, bizarre, un peu taré, un peu, et ça ressemble à aucune véritable chapelle ou école, on dirait.
Non, entre de la musique de pub et avec un petit fond de ska, je trouvais,
ouais.
dans la guitare.
Barré, quelque chose de barré, comme pouvait l'être monsieur Wim T. Cheapers. Vous diriez comme ça, vous ?
Alors, c'est ça qui est compliqué avec les Belges, c'est qu'ils sont pas tous francophones et ils ont des noms compliqués quand ils le sont pas. Schwippers, ouais, quelque chose comme ça.
C'est pas un Belge, c'est un Hollandais, plus exactement, je crois. Ouais.
Ah ouais, néerlandais, d'accord.
Hollandais.
Il est hollandais, mais je l'associe à la BD belge, en fait.
Alors, sans doute à cause de Théo van der Bogaard, qui a adapté la série pour lequel on connaît ce monsieur, parce qu'en fait, je ne savais absolument rien de ce monsieur, à part Léon la Terreur, une BD trash qui paraissait dans les des savanes, qui était très rigolote parce que on pouvait apprécier le, il y avait une espèce de contradiction, ouais, une opposition entre le dessin ligne claire de Théo van der Bogaert,
ouais.
et le propos et les images qui y étaient montrées. Je veux parler par là de la scatologie, de la pornographie la plus évidente, etc. C'était assez incroyable, des dialogues hyper crus, mais tout ça fichu dans une BD à la ligne claire, donc c'est sans doute peut-être pour ça que j'ai d'abord regardé...
Et avec un personnage qui est une espèce de mondain, dandy, à nœud papillon et en smoking, en fait.
Voilà, et qui, lui, ce personnage-là, a été inventé par ce monsieur Wim T. Cheapers, qui est né en 1942. Alors, je remercie Actua BD, pour rendre à César ce qui appartient à César, qui en a fait un petit hommage, dans lequel il précise ça, donc c'est un Hollandais, et en fait il s'est fait connaître par un concept culturel, et il a fondé avec
deux autres barrés,
ouais, Ger van Helk et Bob Wetsorp, un manifeste qui prône la véritable inintéressance. Et l'inintéressance, c'est quoi ? C'est par exemple quand ce monsieur, en 1961, sous l'œil de la presse, a vidé une bouteille de limonade dans la mer du Nord, soulignant lui-même le caractère véritablement inintéressant du happening. Il est également à l'origine d'un concert d'emballage froissé et d'une salle recouverte de beurre et de cacahuètes, un peu à l'image de monsieur Duchamp. Et c'est vrai qu'il s'opposait un peu au style, vous savez, à la Jackson Pollock ou Willem de Kooning qui était alors à la mode. Et ce monsieur-là, eh ben, il en a profité pour se fiche un petit peu d'eux. Et c'est comme ça, donc, on connaît Léon la Terreur. Et si vous n'avez jamais lu Léon la Terreur, allez-y. Ne le laissez pas entre toutes les mains. Par contre, effectivement, les couvertures, ça passe. Et ça paraissait d'abord sous le nom de Léo Van Oukel, sentir toujours chez Magic Strip. Mais ça, c'est pour vraiment ceux qui ont du bol de trouver une édition originale. Parce que maintenant, vous pouvez avoir la chance de le retrouver trouvé, c'était chez Albin Michel pour l'Écho des Savanes.
Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Hein? Ouais, c'est vraiment
Albin Michel, ouais.
Une tradition d'humour, effectivement, néerlandais et belge, hein, d'absurdité, de dadaïsme. Et puis, ce dessin, ligne claire, hyper classique, mais là, qui est détourné pour notre plus grand malheur.
Ah ouais, enfin, ou ça dépend, ou bonheur, moi j'aimais bien.
Ah, caca, hein.
Ah bah, c'était caca. C'était trash. Ah bah c'est sûr, c'est pas de la... Si je dis ce que j'allais dire, on va être supprimé d'antenne. Donc on va dire que c'était pas de la BD de petit garçon. Voilà. Est-ce qu'on peut dire ça, petit garçon?
Oh là, je vous laisse assumer ce genre
Et le plus drôle que j'ignorais totalement, je me demandais pourquoi Léon la Terreur avait disparu. Je me dis, il y a peut-être pas suffisamment de tordus comme moi pour l'acheter. Voilà, ça peut se comprendre.
Non, c'est une histoire de procès, je crois.
Ouais, procès avec l'acteur qui jouait le rôle du personnage qui avait été inventé par monsieur Schippers, et l'acteur principal qui jouait le rôle de Léon la Terreur dans la première version télé, qui était un peu moins trash, etc., a fait un procès à Schippers pour lui interdire de poursuivre la BD, et il a gagné. Et donc c'est quand même une des premières BD dont le scénariste a
perdu, censuré par son personnage.
Ouais, et censuré par son personnage. Je crois que c'est peut-être tout à fait à l'image du bonhomme.
C'est un canular.
À l'image du bonhomme. Découvrez, jetez-vous chez les soldistes sur les albums de Léon la Terreur, ou mieux encore dans les braderies, c'est l'époque. Pour une fois qu'il pleut pas dans les braderies, mais il fait tout chaud, les bouquins jaunissent, c'est dommage.
Ouais. Et redécouvrez donc le travail de Monsieur Schwippers, qui est donc décédé à 83 ans.
Ouais. Et par là même, vous pourrez découvrir Monsieur Théo Vanden Bogart.
Exactement. Vous avez encore de la news?
Oh, mais j'en ai plein. J'en ai plein, mon pauvre ami. Mais alors, le problème, c'est que vous savez bien. Avant,
Vous savez que si un jour il y a une panne d'électricité, vous êtes mort, vous.
Oui. Alors, on se fait un petit X parce que j'ai mis ça sur un fichier.
D'accord. Je vais vous faire écouter un groupe que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup, Shame Trail.
Ok.
Ouais, écoutez ça.
Speech.
Un morceau de surf un peu brinque-ballant, un peu sous acide, j'ai envie de dire.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors justement, parce que vous me parlez d'acide...
Tonton Roger a toujours une anecdote.
Druillet, les dessins de Druillet, c'est
un
peu...
Ah oui, je vois bien, ouais, je vois le lien. Je vois le lien.
Vous voyez le lien. Et l'autre lien, c'est marrant, vous me parliez de lien, c'est que, eh bien, des tisserandes, monsieur Plume, la commande, la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson a commandé à la tisserande Françoise Vernodon et ses collègues une tapisserie reprenant une illustration de Philippe Druillet dans sa bande dessinée Salambo. Imaginez un petit peu, un truc de 12 mètres carrés. Alors je vous la montre, on va essayer, vous mettrez le lien parce que c'est quand même intéressant pour tous ceux qui...
Ah oui, faut aller voir, oui, bien sûr.
Ouais, alors c'est à Aubusson. Alors c'est à Aubusson, c'est vrai que si vous êtes des voyagistes, eh ben vous aurez sûrement envie de ne pas aller rester en France. Mais si comme monsieur Plume et moi vous partagez le goût pour la Brie mystérieuse,
le Berry.
Voilà, la Loire secrète, etc. et autres provinces exotiques comme la Creuse par exemple, provinces exotiques françaises, eh bien vous irez à Aubusson et vous découvrirez, et c'est vrai que c'est magnifique, regardez, je vous la montre, c'est une espèce de tête de déesse. Et au début la tisserande croyait pouvoir la réaliser seule, elle n'a pas pu, elle a dû se faire aider par d'autres collègues parce que c'était énorme et plein de détails.
Il y a un côté masque japonais de théâtre japonais,
le théâtre no un peu,
et ouais, théâtre no, et en même temps une touche un peu de masque africain, et puis de l'acide,
ouais, et des détails comme s'il en pleuvait, notamment des guerriers avec des têtes de monstres et plein de qui gueulent.
Ouais.
Donc un travail de fou. Elles ont mis un temps dingue. Et ce qu'il y a de rigolo pour la petite histoire, c'est que lorsque la tapisserie a été dépliée. Eh bien, certes, du coup, elles ont été, d'une certaine manière, elles étaient déjà la première à la voir, mais elles ne l'avaient jamais vue d'ensemble, parce qu'au fur et à mesure qu'elles tissent, elles sont obligées de rouler, elles n'ont pas un atelier assez grand, vous voyez.
Ouais.
Donc elles l'enroulaient au fur et à mesure, donc elles n'ont pu revoir leur travail que quand tout était fini. C'est un truc de dingo, et c'est donc au musée de la tapisserie d'Aubusson, et moi je dirais chapeau, cette institution, effectivement, d'avoir fait cette commande, et n'en déplaise à la présidente du conseil régional des Pays de Loire, la culture, ça peut faire travailler des gens, faire vivre et faire plaisir. Cette tapisserie-là, vous savez quand même que certaines tapisseries, le concept de la tapisserie, c'est vrai que nous on connaît beaucoup les tapisseries de chiens, format boîte de chocolat dégueulasse, etc., c'est un peu crassou. Là, c'est la tapisserie, la BD, puis Druillet en tapisserie. Cette image-là, en plus, c'est pour ça que je vous parlais un petit peu d'acide. C'est un peu l'effet que ça m'a fait quand j'ai vu ça tout à l'heure.
Je vois ça dans vos yeux.
Autrement, la BD érotique, de plus en plus féminine, tient son premier salon à Paris, faut le savoir. Vous pouvez aller aussi à Paris, vous n'êtes pas forcé d'aller dans la bouillasse. Monsieur Plume et moi aimons bien la bouillasse, mais vous pouvez aussi également aller à Paris. Ça
on
reste
dirait
en France,
que ça te gêne de marcher dans la boue.
Paris accueille depuis dimanche le premier salon, donc dimanche dernier, pardon, en ce qui me concerne, le premier salon de la BD érotique en France, un art qui attire de plus en plus d'illustratrices et de jeunes autrices et amatrices, notamment conquis par le manga coquin. Alors, j'ai des questions à vous poser.
Qui n'avait pas un peu prévu cette évolution du milieu érotique? Qui en avait parlé?
C'est nous qui l'avons. On n'arrête pas de le dire. On a encore dit, tiens, cet hiver, on a dit, de toute façon, un mec fait une BD de cul, maintenant, c'est le procès direct. Donc,
c'est pas tout à fait comme ça qu'on le vendait à l'époque.
Mais c'est un peu comme ça qu'on l'expliquait. Les auteurs ne sont pas fous. Ils ont des familles à nourrir, pas envie d'aller en prison et de voir... Oui, salaud, enculé, on va te jeter des roches. Vous voyez, donc, bah, il laisse tomber la BD de Mich. Les filles vont s'en charger. Et c'est ce que dit un peu, l'article de France.
Ça fait évoluer le contenu, par contre.
Pardon?
Ça fait évoluer le contenu.
Bah oui. Puis c'est une évolution, ce sont les mœurs. Donc cette manifestation se tiendra au centre culturel de la Bellevilloise et rassemblera des autrices et des auteurs, français et étrangers d'une génération qui dépoussière la BD de cul. Alors, ça, c'est un peu un argument qu'on rebalance tous les ans pour essayer de
dépoussiérer.
Bon, rénové. Ça peut rester, mais quand même, si jusqu'à présent la BD érotique était dominée par des hommes, c'est vrai, eh bien aujourd'hui de plus en plus de femmes, comme on s'illustre, une des plus connues en France est Maya Mazorette, en tant qu'autrice, autrice des Petites Luxures, on aura également Petites Luxures, Stella Polaris ou Apollonia Sinclair, pour citer les quatre autrices les plus réputées dans le milieu. Et oui.
Ah bah
Donc si vous voulez vous acheter un train pour Paris, et puis ne faites pas votre gêner parce que vous n'avez pas votre chérie vous écoute. Heureusement que je suis obligé d'assurer ça. Alors j'ai ça. Ah si, vous pouvez aller aussi en Charente. Vous pouvez aller à Angoulême, pas pour aller au festival parce qu'il n'y en a pas eu cette année, vous êtes vraiment au courant. Mais vous pouvez aller en Charente parce que les bâches du Grand Off de la BD d'Angoulême ont été vendues en moins d'une minute lors d'une cérémonie qui s'est tenue, c'est-à-dire qu'ils ont découpé des bâches de publicité, etc. Et puis où il y avait les illustrations, etc. avec toutes les autrices et auteurs présents. Et ça a été transformé en sac, ça a été transformé en plein de choses. Et il se trouve qu'il y en aura d'autres. Et Mireille,
et on peut aller acheter des objets faits avec ce matériau-là.
Et alors, c'est la mairie, ça appartient à la mairie, et c'est la mairie qui a autorisé la vente, en tout cas, du découpage et de la revente de, ça a été fabriqué par l'hôtelier neuf de la région urbaine d'Angoulême. Mmh. 90 sacs. Et ça pouvait être rigolo. Plus tard, en plus de ça, il devait y avoir du Rémi Cattelin exceptionnel. Moi, je lance un appel. Quelle est la personne qui a un dessin de Rémi Cattelin sur son sac?
Et où habitez-vous?
Je vis de l'achète. Donc, vous dites, voilà. Et l'article dit qu'en plus, il paraît qu'il y en aura d'autres. Mais c'est l'atelier 9. Vous tapez atelier 9 Angoulême. Puis vous vous démerdez. On va quand même pas non plus tout faire pour vous. Comme ça, on va pas vous tenir par la main pendant des années.
Voilà. C'était juste des conseils. Voilà. Vacances.
Voilà.
Interlude musical.
Ouais, j'ai soif.
Moi aussi. De vous écouter, ça me donne soif.
Et moi, je parle.
J'imagine que vous avez reconnu le cover pratiqué par Robo Indie Guys dans ce morceau.
Bien sûr.
Ah, bien sûr. Les Kinks. Comme vous avez beaucoup parlé, je prends la parole.
Oui.
On va faire un. Je vais vous parler de Carl, ouais. Album de Cyril Bonin paru chez Sarbacane. On va découvrir Karl et les personnages et Magda. On va dire, c'est vraiment ce duo-là que l'on voit sur la couverture qui va être au cœur de cette histoire. Alors Karl, c'est un androïde majordome. Donc c'est, on est dans, tu vois, dans un univers assez rétro-futuriste, j'ai envie de te dire, parce que il y a donc les robots pensants avec des IA. Et ça va être vraiment l'interrogation autour de cette IA qui va être au cœur de l'album, et tout ça dans un, avec un décor, des choix graphiques qui vont vraiment piocher dans l'Amérique des années 50, dans le design des voitures, les costumes des personnages, tu vois, vraiment une espèce de rétro-futurisme comme ça. Karl, donc c'est un robot androïde, et il bossait pour Charles Brooks, un riche banquier. Assez fantasque, mais un génie des chiffres, tu vois, qui meurt dans un accident de voiture. Les circonstances sont assez troubles parce qu'en fait, c'était Karl qui conduisait. Or, il a, tu sais, des règles, notamment, tu dois privilégier la vie de l'être humain avant tout, etc. On comprend pas trop comment a eu lieu l'accident, et il y a toute une question d'assurance qui va tourner autour de Karl, parce que si Karl est responsable, ça veut dire que ceux qui ont créé, l'entreprise qui a créé Karl va devoir des dédommagements à la banque qui vient de perdre son PDG, tu vois.
Et ils vont leur donner des sous.
Et donc, il va y avoir une enquête. Et donc, un enquêteur viendra voir Karl régulièrement, et Karl, il est dans la maison donc de son ancien propriétaire, où revient, eh ben Magda, le personnage féminin. C'est la fille de Charles Brooks, c'est la fille du banquier. Elle était brouillée avec lui. Ça faisait presque, à part les coups de fil de bonne année, etc., ils s'étaient pas vus depuis 10 ans. Et donc, elle vient dans la maison, et pour les besoins de l'enquête, elle va réactiver Karl. Parce qu'il doit aller faire des analyses à la police, et puis il y a un policier, ou plutôt un assureur qui viendra la voir, le voir pour avoir des entretiens avec Karl. Et va se jouer, à partir de là, t'as plein de petites histoires qui apparaissent. T'as une espèce de romance qui va évidemment se faire entre Magda et l'enquêteur assureur qui est un beau gosse. Il y a la question de est-ce que Karl n'a pas développé finalement une conscience, parce que on va découvrir que Karl a eu l'accident parce qu'il a évité une biche. Et donc c'est parce que il l'a trouvée belle. Enfin, il explique que voilà, il l'a trouvée belle. Et donc, Karl aurait-il un début de conscience? On a relevé des blogs en plus pour lui. Donc il y a tout une dimension aussi Ghost in the Shell, si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, l'intelligence artificielle, finalement, est-ce que ça crée pas une nouvelle conscience? C'est vachement beau. Il y a vraiment plein de dimensions dans ce récit. Des moments où tu peux avoir 2-3 planches sans parole, tu vois, de promenade, dans la nature et tout ça. Karl et Magda, par exemple, dans le jardin, en train de travailler. Des trucs très contemplatifs, très beaux, vraiment d'espèces de communion avec le monde qui nous entoure, de sensations, etc. Et puis, des phases de procès, très bavardes, etc. Mais avec vraiment du texte pensé et ciselé, quoi. C'est vraiment un très très bel ouvrage que nous livre Cyril Bonin. Ça s'appelle donc Karl. C'est paru chez Sarbacane, et je trouve que la couverture d'ailleurs très réussie, puisqu'on voit Magda et Karl se regardant les yeux dans les yeux dans ce jardin, quoi, qui a devant la maison. C'est vraiment très très beau.
Un one shot.
Oui, un one shot. Ouais. Et qui est passionnant, avec une conclusion vraiment très très réussie. C'est vraiment un très très bon album. Bravo à Cyril Renin. Voilà.
Alors quelque chose qui n'a absolument rien à voir.
J'imagine bien.
Pump. On peut l'appeler Pump.
Part 2.
De monsieur Laurent Gnoni et Rodolphe. Vous voyez, je vous disais qu'on avait eu plein de gens italiens d'origine italienne. C'est le cas de Laurent Gnoni, qui, même lui, s'il est né à Nice, ses parents sont italiens, il nous l'a dit.
Ouais.
Exact. Et donc, en compagnie de Monsieur Rodolphe, que nous ne présenterons plus au scénario, puisque c'est notre invité de Saint-Malo, puisque avant on avait Monsieur Pochep, mais il vient plus Monsieur Pochep. Ça fait bientôt 2 ans.
Il traîne trop à Paris.
Ah ouais, est-ce que Saint-Malo serait assez bien pour lui? En tout cas, on a hâte, en tout cas, qu'il vienne, Monsieur Pochep, pour nous parler.
Il serait du côté du Berry, paraît-il.
Ah, on n'en dira pas plus, parce que on va avoir des ennuis, parce que parfois, il nous écoute. Et il nous avait écouté quand j'avais vanté son excellent dernier album, Voli Voilo. Et peut-être qu'on le reverra pour son dernier album, allez savoir. Monsieur Rodolphe, qu'on retrouvera sûrement, de toute façon. Et pour Pump, tome 2. Alors, Pump, je vous raconte, on est au temps du western. Et on a affaire à un affreux blond, Là, par contre, c'est un blondinet. Que l'on trouve
un angel face.
Ouais, que l'on trouve prostré dans une et blessé dans une ambulance qui a été attaquée par des bandits.
Une diligence.
Et une diligence, qu'est-ce que je raconte, une ambulance, une diligence effectivement.
Lapsus révélateur.
Ouais, la chaleur. Une diligence et on découvre qu'en fait, c'est on a la ville a élevé un serpent en son sein.
C'est
parce
ça.
Parce que le pump en question, c'est une vraie petite merde. Il n'a rien à voir avec la pauvre bonne femme qui a été butée par les autres larves. Ouais. Il se prétend être le neveu d'une vieille bonne femme qui a été butée dans la diligence, présente avec lui dans la diligence. Alors qu'en fait, c'était un des du gang qu'on croyait mort et que les restes du gang avaient laissé à traîner. Et puis c'est tout. Et rapidement, il va répandre son venin, faire son nid. Et déjà à la fin du premier album, on sait qu'il est devenu patron de bar, tenancier de bordel. Les gens commencent à bosser pour lui. Il a bricolé la femme du shérif, la fille du shérif. Bref, à part peut-être la chèvre du pasteur, il a bricolé à peu près tout le monde. Et il a un peu, on pourrait dire, en plus joli parce qu'il est plus jeune, mais un peu la morale d'un Trump.
Il y a une allusion très très claire.
Bien sûr.
Les auditeurs fidèles se souviennent peut-être que nous avons passé une interview pour le premier Pump.
Ouais, en compagnie de Monsieur Dioli, ouais. Et de Rodolphe. Et là, justement, à une différence près, je voudrais dire, parce que Trump, je sais pas si vous êtes au courant, mais là, il a essayé de transformer le miroir d'eau en comment dirais-je, parce qu'il avait choisi le bleu américain. Alors, c'est pas de la corruption, c'est juste un pote à lui qui lui a fait une super piscine. Donc, il l'a embauché parce que c'est le mec le plus compétent de la Terre, tu vois. Et donc, en fait, rapidement, ça s'est révélé être une grosse merde.
Il y a un champignon qui se développe.
Non, des algues, tout bêtement. Et puis, le mec a mis un revêtement de merde. Naturellement, Trump accuse les ultra-gauchistes d'avoir salopé. Vous savez que c'est le plus grave, par contre. On pourrait en rire s'il n'y avait pas la tragédie de voir qu'il y a eu quand même plusieurs arrestations, quand même, dans ce cadre-là. Sans compter des dingos qui, pour faire chier, parce qu'on est un peu sur la côte est, il y a aussi des gens rigolos là-bas, et comme on n'est pas chez les rednecks, et on voit un bonhomme déguisé en algue qui court le long du merdo et qui se fait courser par les flics. Bref, Trump déclare la guerre à l'Iran et on peut pas dire que ça serait une franche réussite. Maintenant, il va falloir payer à Détroit pour un Détroit où c'était gratuit auparavant. Bravo. Et le régime maintenant n'est plus un régime théocratique, mais maintenant un régime théotatrico ou militaro-théocratique. C'est plus facile à dire. Donc, on peut pas dire vraiment qu'on est gagné et on peut pas dire que le gars Trump, en tout cas, si c'est le descendant de Monsieur Pump, on ne peut pas dire que ce soit quand même un franc succès jusqu'à présent.
Ouais. Et je crois qu'en fait, donc c'est le deuxième épisode et tout se jouait avec l'arrivée d'un personnage
qui allait
peut-être mettre à mal.
Alors vous qui êtes un spécialiste des séries épidémiques.
Un cliffhanger.
Cliffhanger.
Ouais. Un personnage arrivé qui pouvait mettre à mal la fausse identité de
la cousine, autrement dit. Est-ce la fille de la tata? Donc est-ce qu'elle se prétend être la fille de la tata?
Ouais. Puis elle a pas l'air du genre commode.
Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Vous le découvrirez dans ce deuxième tome.
Dans mon souvenir, c'était un triptyque, non?
Ah, alors là...
C'est fini, là? Non.
Non, c'est pas fini.
Je crois que c'est un triptyque. Donc, deuxième épisode.
Ouais.
Et c'est toujours aussi bien, j'imagine.
Ouais, moi, j'ai bien aimé. Le personnage est toujours aussi pourri, mais Monsieur Gnoni dessine magnifiquement les filles.
Et les chevaux.
Mais
c'est
parfois,
juste pour dire que voilà,
là, il les cache avec de la poussière ou avec des bulles. On sait comment vous faites maintenant, nous les dessinateurs, parce qu'avec Monsieur Plume, c'est vrai qu'effectivement, on a toujours dit il y a des choses difficiles à faire, le casque allemand et le cheval. Non. Et certains auteurs ont prétendu, nous ont avoué, même pas sous la torture, planquer les chevaux, comment dirais-je, dans de la poussière ou les faire de très loin, ou les cacher par des bulles. Enfin, il y a plein de trios. Et le casque allemand, il suffit de dire que le soldat est en permission, et puis là, il met pas de casque, il met sa casquette.
Une bonne casquette.
Mais par contre, les filles sont très bien.
Deuxième épisode,
une si belle histoire. Laurent Gnoni, Rodolphe Pump aux éditions En Spach ou En Spar, ça dépend comment vous dites.
Ouais, si vous avez des soucis dans la vie, allez vous faire faire un tatouage. When are you coming to get a tattoo?
receive it, but I don't wanna believe that this is all that we are good for. I can love it, I can leave it, but I don't wanna believe it when you say that we are done for. I can run or I can fight it, but it doesn't make it right. Why are you saying that we're no more? Are you in or are you out? Or you're selling me the style? Am I not the answer you're looking for? Are you sure you don't look sore? And we've been in this mess before. Smash your TV, burn the news. All they play is different ways that we live and we lose. Smash your sadness, go get our tattoo. We were born to win, not born to lose.
It's 2 a.m, fuck it, I'm getting a tattoo. The shows I love all the same shit that you do. It's about time I tried something new to stick and poke out my commitment issues. So ink me, hit me with the pen. I'm an artwork, let the church say amen.
Amen,
I want to say it again. My body is the canvas, you could be the pen.
Are you sure you don't look sure?
Frank Carter et les Rattlesnakes. Eh ouais, monsieur. Avez-vous déjà entendu parler de Madeleine Polyak?
Montrez-moi sa tête.
Hop là.
Couverture. Alors, je vois Staline derrière.
Ouais.
L'escadron bleu 1945.
Et vous voyez surtout le personnage au premier plan?
Ouais, je vois la dame, mais elle ne me dit rien. Mais comme elle est devant un portrait Staline, je dirais que c'est une volontaire française. Qu'elle s'est battue comme infirmière, elle a un brassard.
Pas mal.
Elle s'est battue du côté, peut-être. Est-ce qu'elle aurait accompagné les Français de l'escadrille Normandie-Yémen?
Pas mal. C'est pas mal. En fait, Madeleine Polyak, vous avez bien compris, était une engagée des FFL.
Force française, oui.
Ouais, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et certains ont été en Russie.
Oui, c'est vrai. Alors, elle va pas vraiment se retrouver en Russie. Elle participe à la libération. En fait, elle fait partie d'un groupe de conductrices d'ambulance.
Ah oui, c'est vrai.
Et elle accompagne toute la libération. Elle, c'est une engagée FFL, hein, donc vraiment, elle a rejoint De Gaulle, elle a rejoint l'Angleterre. On va la suivre avec elle et son petit groupe. Elle dirige, elle commande donc un petit groupe de conductrices qui ont chacune leur personnalité, etc. Leur surnom, tu en as plusieurs, tu les découvriras. Tu vas suivre ce groupe et mené donc par cette Madeleine Polyak vers la fin de la guerre, vers l'année 10. On est dans l'année 1945. C'est vraiment la période de la reconquête de l'Alsace, la Lorraine et puis l'entrée en Allemagne. Donc tu vas la suivre pendant cette période-là où là l'idée c'est de rapatrier les déportés, les perdus du STO, les anciens prisonniers, tu sais, en accompagnant la progression des forces américaines. Donc retrouver tous ces Français, tu sais, qui sont éparpillés partout et les ramener à l'hôpital de Strasbourg, etc. Enfin, tu vois.
Et ceux qui veulent pas revenir?
Alors tous les Français.
Okay.
Hein, quel que soit, voilà, quel que soit finalement le pourquoi ils sont en Allemagne. Quoique elles sont jamais toutes seules, je veux dire dans le cas des volontaires de la Légion, enfin etc. Voilà, ceux-là, la police militaire est là pour s'en occuper. Donc elles rapatrient, elles ont une espèce de travail d'enquêtrice. trouver, ouais, dans les quels stalags où hein, on a vu des Français perdus, parce que c'est le grand, la grande débâcle, tu sais.
Ouais, c'est le grand n'importe quoi.
C'est le grand n'importe quoi. Les gens sont pas en train d'attendre dans leur camp. Il y en a plein qui ont été déplacés, etc., qui travaillent dans des fermes. Enfin, il y en a partout, quoi. Ah. Donc t'as tout un travail d'enquêtrice. Donc tu vas la suivre pendant cette, on va dire, la fin de l'année 45, la fin de la reconquête de l'Allemagne, et deuxième partie 46, et ça va se prolonger un petit, ça va se prolonger. Elle est en Pologne. Pareil pour retrouver des Français, pareil déportés, ou alors prisonniers, ou alors malgré nous, parce qu'on va voir des malgré nous dans cette histoire, parce qu'il y a plein de Français de Moselle et d'Alsace qui se sont retrouvés sur le front russe alors qu'ils n'avaient pas spécialement demandé ça. Elle s'y retrouve en 45-46, au moment où les libérateurs soviétiques commencent à s'incruster en Pologne et prendre le contrôle, parce qu'il y avait une Pologne résistante qui était à Londres, de résistance polonaise à Londres aussi, hein. Il y avait une résistance certes communiste, mais il y avait aussi un peu comme il s'est passé en France, quoi. Il y avait aussi une, on va dire, une résistance plus peut-être plus marquée démocratique,
hein, pro-occidentale,
pro-occidentale, voilà, avec des valeurs un peu différentes de celles proposées par le modèle russe stalinien. Et tu vas sortir l'emprise la prise de contrôle de la Pologne par l'occupant à ce moment-là. Le libérateur devient l'occupant soviétique. Tu redécouvres que l'armée russe finalement se traîne une mauvaise réputation depuis des années, mais tu comprends pourquoi. Parce que elles vont être confrontées à des tas d'histoires. Elles voient, si tu veux, les vols, les rapines, les agressions sexuelles multiples que les soldats russes font en toute impunité, quoi. La corruption, etc. Et puis en plus, elles font chier, quoi. Elles sont témoins de tout ça. Donc les soviétiques sont officiellement, on est alliés, tu vois, quoi. Enfin bon, la France de Gaulle, c'est pas non plus le rapport de force n'est pas vraiment à la faveur, tu vois. Donc s'ils veulent pas te donner, je sais pas, les prisonniers français, ils te les donneront pas.
Et puis c'est tout.
Et puis c'est tout. Surtout quand c'est des malgré nous, par exemple. Donc on va la découvrir. Alors c'est fait à partir de documentation historique. Et puis après, on a rebouché les trous, hein. On va suivre l'aventure de ces filles qui sont pleines de vie, en fait. Elles sont vraiment très pétillantes et plongées dans un monde mais complètement chaotique, quoi. Mais c'est vraiment, elles ont un côté, enfin c'est presque angélique, parce qu'elles débarquent, elles sont des fois vraiment, elles sauvent des gens, quoi. Tu vois les types qui sont en train de crever dans des wagons sous la chaleur, et que les soviétiques rechignent à relâcher, quoi, par exemple. Tu vois, et puis elles tissent des liens avec la population polonaise aussi, tu vois. Ils ont besoin de guides, ils ont des contacts, et il y a une histoire notamment avec un couvent de nonnes polonaises qui a été visité par les soviétiques. Enfin, il y a tout. C'est vraiment chouette. C'est intéressant aussi parce que c'est raconté en flashback. En fait, on va commencer par l'enterrement de cette Madeleine Poliak.
Et ça s'appelle comment, vous m'avez dit ?
L'escadron bleu.
L'escadron bleu.
Madeleine Poliak est décédée lors d'un accident de voiture en Pologne, justement, où elle était retournée avec un secrétaire d'ambassade français qui était très critique qui le faisait savoir vis-à-vis de l'occupant soviétique en Pologne, hein, vraiment.
Elle est morte quand?
En 47, je sais plus l'année, mais bref, elle est morte, et c'est l'occasion de réunion du groupe et d'évocation des souvenirs, et on va raconter toute l'histoire de la bande, quoi. Et puis il y a le petit mystère, l'accident de voiture était-il
si accidentel que ça.
Exactement. C'est plutôt bien fait. Dessin aussi assez réussi. On est dans le réaliste.
Bah oui, hein. Avec une évocation pareille, on va pas faire.
Ouais, clairement, on est dans le réaliste. C'est paru chez Air Libre, donc vous voyez un petit peu aussi, on va dire, et la couverture nous le dit bien, la charte graphique de tout ça. C'est Monsieur Lepont et Monsieur Olanier, voilà, qui nous présente ça donc chez Air Libre, l'Escadron bleu 1945. À la fin, évidemment, t'as un petit cahier historique avec des photos. Tu peux comparer d'ailleurs les portraits des conductrices, photos, dessins. C'est assez marrant. Et puis tu en sais encore plus. Donc sur cet escadron bleu, hommage aux femmes résistantes engagées dans la Seconde Guerre mondiale et témoins de comment s'abat une dictature dans un pays occupé, enfin libéré officiellement. C'était pour moi. Il vous reste un peu de temps, si vous voulez.
Eh ben, écoutez, absolument rien à voir. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Katoun ?
Non, mais alors j'ai vu la couverture, là, vous m'avez montré. On dirait de l'horrifique asiatique.
C'est de l'horrifique asiatique. Les Cartoon Comics, ce sont des petits ouvrages qui ont connu leur heure de gloire au tournant des années 70 et 80. Alors j'aime bien cette expression-là, au tournant, ça veut rien dire. Moi, j'aurais vu des rues tourner, mais tiens, je vais le dire, tiens, maintenant. Au tournant des années 70 et 80. Donc... Pendant les années, dès la double décennie 70-80, eh bien, ces petits ouvrages, ces Thai Comics, vont faire véritablement un malheur en Thaïlande, justement, et notamment dans la région de Bangkok, dans tous les centres urbains.
On dirait des petits fumettis horrifiques.
Voilà, oui, c'est ça. On est un peu dans ça, c'est-à-dire, on est plus dans le gore, plus dans le mode fantôme, etc. Fantôme anthropophage, d'ailleurs, et, comment dirais-je, avec un peu de nichon. On peut avoir un peu de nichon, mais on a, comme le faisait remarquer ma compagne, à qui je disais que c'était, elle me dit, ouais, parce que c'est un ami qui me l'a offert, je tiens à le remercier, d'ailleurs, mon ami le Nantais, qui m'a offert, tiens, elle me dit, t'as jamais parlé des comics thaïlandais, parce que ce tiendra, va se tenir à Paris, dans la galerie Art Factory, Paris 11e, le Cartoon Thai Comics, bande dessinée populaire thaïlandaise, et cet ouvrage, en fait.
Une exposition, c'est ça?
Ouais, une expo, tout à fait, à Paris 11e. Je sais que vous ne faites pas que traîner dans le Berry mystérieux. Vous allez aussi de temps en temps à Paris.
Mmh. J'ai cette audace.
Eh bien, profitez-en pour aller traîner vos guêtres dans le 11e pour une expo qui se tiendra du 3 au 24 juillet. Voilà. Et cet ouvrage-là, c'est l'ouvrage que je tiens dans la main. En fait, c'est le carnet de l'exposition.
Le catalogue.
Le catalogue de l'exposition.
D'accord, ok.
Pas tout à fait, hein, parce qu'il n'y a pas que c'est pas clairement dit que c'est le catalogue de l'exposition. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on nous explique ce que c'est que le cartoon, le style cartoon pour les au niveau des Thai comics. C'est, si vous voulez, une espèce de littérature destinée aux gens de peu, qui sont, comment dirais-je, vous savez, ces gens qui ne sont rien, dont parlait avec Maestria, notre Jupiter de président, et du fait, quand même, la Thaïlande, certes, ça peut être le paradis des touristes, pas toujours bien intentionnés, d'ailleurs, mais c'est aussi un pays où la réalité sociale est très, très dure, et où, de fait, eh ben, effectivement, les gens, ils en chient. Et la population urbaine, notamment de Bangkok, va prendre l'habitude de se réfugier à travers la lecture de ces petits comics, dont pas loin de 25 000 exemplaires vont être produits durant la décennie, quand même, c'est pas rien, et à des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires, ces petits ouvrages qui nous racontent comment, et ben effectivement, une femme violée, par exemple, par un affreux patron, va se voir être vengée par un fantôme dégueulasse, sans tête, qui va lui arracher le corps, etc., etc. On a une espèce de morale, vous voyez, basée, d'après l'auteur de cette exposition-là, autour du bouddhisme, en fait. Et le monsieur qui est à l'origine de cette expo est considéré comme un iconologue, s'il vous plaît. Eh ouais, un jour peut-être qu'on deviendra iconologue, ça veut pas dire que vous mangez des... hein ? Ça veut tout simplement dire que vous êtes un spécialiste de l'image.
Ouais. Voilà. Graphiquement, ça me fait penser...
200 millions d'exemplaires.
À Junji Ito, voilà, un japonais que certains connaissent peut-être.
Alors, c'est vous spécialiste.
Alors, il est temps, il est plus que temps de partir à Saint-Malo.
Donc, je rappelle, Cartoon, Thai Comics, Galerie, combien que je vous ai dit
t'as dans sur... le 11e. Ouais, vous trouverez ça sur le blog.
Dans le 11e, vous trouverez ça sur le blog. Et puis, comme ça vous permet d'aller en Thaïlande sans payer de billets et sans les moustiques.
Voilà. Et là, on part à Saint-Malo. Et allez,
après,
hop. Et
après, vous allez qui dans le Berry, qui sur la Loire majestueuse. Alors, je crois que maintenant...
Attends. Attends, je recommence. Hop. Get back. I ain't got time for the attack. Grinning with a bird of sack. Young but as sharp as a tack. Snatch a crown from a king and I tell you where I spent. Romance simple for a rap. Boot like a blues who would lap. Tell us not a ride. Where you at? Where you at? Where you at? Where you at? Left side to the right side. Front side to the back. To the back.
Eh bien voilà, nous sommes encore à Quai des Bulles, c'est notre dernière interview de la matinée, du samedi matin, pour l'édition 2025, et nous recevons maintenant Monsieur Andrea Rossetto, oui. Et Monsieur Jean-François Mignac, bonjour.
Bonjour.
Pour un album tout chaud, parce qu'il n'est même pas encore en bac, je ne crois pas qu'il soit encore en librairie.
Il sort le 31.
Voilà, il sort le 31 octobre et nous, on a beaucoup de chance parce que on l'a déjà dans les mains avant tout le monde, même s'il est disponible au festival aujourd'hui.
Oui, tout le week-end.
Et c'est donc Vauban, 1693-1694, une série en deux tomes, ça sera un diptyque. Mmh. Vauban, le piège malouin, et c'est pour le premier tome que vous êtes parmi nous aujourd'hui. Piège malouin, ça tombe bien, puisqu'effectivement, nous sommes à Saint-Malo. Et comme quoi, les choses sont bien faites. Alors, on a coutume, lorsque nous rencontrons pour la première fois un dessinateur ou un scénariste, comme c'est le cas, parce que c'est la première fois qu'on vous rencontre, de leur demander comment ils sont tombés dans la marmite de la bande dessinée. Comment vous êtes tombé, Monsieur Rossetto, comment vous êtes tombé dans la marmite de la bande dessinée ?
Moi, j'ai eu, quand j'étais petit, la passion de dessin. Et puis, dans les BD, j'ai trouvé la motivation pour continuer et faire de mes passions un travail. Et dans 2017, je suis arrivé à Saint-Malo au festival et j'ai connu une maison d'édition et puis j'ai travaillé avec Jean Mignac, Jean-François Mignac. Et donc, c'est parti en collaboration qui est toujours c'est bonne. Et donc, nous avons fait Vauban.
Voilà. Et en fait, auparavant, Andrea a travaillé pour les éditions OREP, hein, qui est une maison d'édition basée en Normandie, à Bayeux. Et il a réalisé un certain nombre d'albums, en fait. Hein, oui. Ensemble, oui. On en a fait deux. On a réalisé Les Vikings. Oui. Et puis, une bande dessinée sur l'histoire générique, hein, de la Normandie. Et tu en as fait une autre, hein, je crois, une bande dessinée de guerre aussi, hein, c'est
oui,
ça ?
Oui, le deuxième tome de Normandie, juin 1944. Donc, en France... Je suis arrivé à faire beaucoup d'historique.
Voilà.
Vous savez, avec Monsieur Mignac, vous êtes servi parce que vous êtes Monsieur Mignac est un spécialiste de l'histoire, en fait.
Ah oui, oui, c'est spécialiste vraiment.
Et puis Andrea a aussi travaillé pour une maison d'édition rennaise, dont l'éditeur est mort accidentellement sur Rennes, là, dans un accident de voiture. Là, il a été percuté une nuit il y a 3 ans, à 5 heures du matin, du côté de à Saint-Jacques-de-la-Lande, enfin sur Rennes, voilà. C'était Jean-Yves Brouard. Oui. Et donc Andrea a repris partiellement la série majeure.
La série Mrs. Kimon, non ?
Ok.
Et la série, c'est
Mission Kimono.
Ah oui, Mission Kimono, qui est une série d'aviation qui est très bien dessinée. Et, okay. Voilà.
Et vous, Monsieur Mignac, alors je sais que vous avez un faible pour la Normandie. On épluche, hein, on épluche.
Oui, oui, je vois ça, je vois ça.
Si vous lui faites des infidélités aujourd'hui, hein, parce que le piège malouin, vous vivez à Saint-Malo, etc. Comment vous êtes tombé, vous, dans la bande dessinée, monsieur Mignac?
Alors, en fait... C'est toujours enfant, hein. C'est souvent des passions enfantines. La découverte de la BD pour moi, c'était un oncle qui m'a offert un album de Tintin, en fait, hein, voilà. Et puis par la suite, assez rapidement, c'est vraiment la bande dessinée Gronet qui m'a dont j'ai été admiratif. Hein. Alors à l'époque, moi, c'était Uderzo, hein, voilà, Uderzo, César, voilà. On allait
régulièrement. Arthur le petit fantôme.
Arthur le, oui. Absolument, sur Plouf, les Tristus et les Rigolus, voilà, voilà. Moi, je suis pas, naturellement, c'est pas tant le dessin réaliste qui m'attire, c'est vraiment le dessin dynamique, voilà, humoristique, franco-belge des années 60, 70, voilà, tout ce qui est, ouais, dynamique. Donc après, derrière, ça va être des Hardy, par exemple, voilà, des gens comme ça, voilà. Mmh. Ça, c'est... Et donc, naturellement, c'était un goût pour le dessin. Et puis, avec ponctuellement quelque chose qui m'avait marqué, c'était la lecture de la biographie, enfin, entre guillemets, biographie, l'interview de Numa Sadoul autour d'Hergé, donc Tintin et moi.
Que Numa Sadoul, c'est voilà, le biographe.
Absolument. Et j'avais 12 ans en réalité, je me trouvais, je me vois encore, enfin à Caen, aux Nouvelles Galeries, avoir le choix entre des Tuniques Bleues de Salvirius à l'époque et tout puis ce truc, cette biographie. J'ai choisi cette biographie, je l'ai lue et ça m'a impressionné parce que j'étais un petit peu rebelle, quoi. J'avais pas envie de me retrouver, même dès l'époque en fait, je me voyais mal. Travailler dans une entreprise, etc. Et je me dis, ah, mais c'est un métier génial, un métier de liberté. Enfin, c'est l'impression que ça donnait. C'est absolument faux. Mais voilà, mais c'est vrai, c'est complètement faux. Mais donc voilà, donc à l'âge de 12 ans, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment bien. Et donc j'ai écrit à Hergé.
Ah, et il vous a répondu.
Et il m'a répondu.
Oh, bien, oui, bien. Oui, oui. Vous avez gardé la lettre.
Bien sûr, oh. Bien sûr. Donc j'ai écrit, j'avais 12 ans en fait, hein, voilà. Et donc il m'a écrit, il m'a répondu une lettre, voilà, dactylographie signée, le petit dessin de Tintin, voilà quoi. Donc et je lui ai réécrit 4 ans après, quoi. Donc en troisième, voilà, donc s'il nous fait vers 15 ans ou 16 ans, quelque chose comme ça. Et à nouveau, il m'a répondu. Oh. En se référant au premier courrier.
Redoutable.
Redoutable. Ouais, en disant, ah, vous avez fait des progrès, mon petit Jean-François. Enfin, grosso modo, quoi, c'est ça. Ah, mais c'est... il faut passer son bac. Ah, voilà. Ah. Enfin, grosso modo, c'est ça. Ouais, ouais.
C'est sûr que c'est pas vos parents qui avaient répondu.
Oui, ça, ça aurait pu être ça. Ouais.
Allez, fais-moi un petit ouais, ouais, ouais.
Et alors, initialement, parce que j'avais lu justement dans la biographie que des gens lui avaient écrit en mettant Hergé, Bruxelles, Belgique, etc. C'est ce que j'avais fait. Lui était parvenu. Donc c'est tout à fait impressionnant rétroactivement de constater ça, parce que ça veut dire que le gars, il prenait le temps de lire tous les courriers, d'y répondre. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Vraiment, de se dire, attends, quelle humanité quelque part. Enfin, voilà, quoi.
Et c'est marrant parce que vous citez des références donc plutôt humoristiques Grenet, et
oui.
En fait, naïvement, moi je vous associe beaucoup au récit historique
réaliste.
Ouais. Mais complètement, mais même en termes de dessin, moi je n'ai fait que dessiner du réalisme. Et c'était pas mon goût. J'ai répondu toujours à des commandes. C'est pour ça que j'ai arrêté un moment. Parce que.
Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais vous êtes polyvalent. Parce que vous êtes à la fois écrivain, mais vous êtes aussi dessinateur, vous êtes scénariste. C'est laquelle des activités qui vous plaît le plus ?
Alors aujourd'hui, oui, c'est écrire en fait. Hein, c'est un vrai plaisir, quoi, réellement. Enfin, bon, si on résume, moi, ma trajectoire, c'est une trajectoire de dessinateur. Après, en termes de BD, je n'ai eu l'occasion que de dessiner des albums réalistes, qui, encore une fois, n'est pas du tout ma came en réalité. Donc, j'ai été un peu contraint. À un moment, j'ai souhaité faire la totalité, scénario, etc. Mais foncièrement, je me suis trouvé bloqué, hein, chez Glénat, quoi. Glénat voulait poursuivre, en fait, des collaborations, etc. avec Henri Filippini, à l'époque. Hein. Et dès qu'il s'agissait de faire du scénario, c'était non, parce que, en fait, ils avaient un mode de fonctionnement qu'ils avaient un certain nombre de scénaristes maison. Ils dispatchaient les travaux et on était considérés, on était dans la case dessinateur et c'était a priori difficile d'en sortir. Donc moi j'ai arrêté, voilà. Hein, et puis après, ben c'était un hasard finalement de ce sont que des rencontres hein, en réalité hein, qui font que les choses vont bifurquer dans telle et telle direction. Et je me suis retrouvé en fait à travailler sur des biographies d'aïeul en fait, de Malouin en fait. Hein, j'ai un ancêtre malouin, un arrière-grand-père qui a fait la ruée vers l'or. Donc j'ai travaillé sur...
Dans Klondike ?
Alors non, sur San Francisco, Californie. Okay. En fait, on avait un embryon de généalogie de la famille, on avait son nom, prénom et uniquement la date de naissance et disparu aux Amériques, point d'interrogation. Wow. Donc, voilà. J'ai essayé de creuser, etc. On aboutissait à rien. Et puis un jour, un bouquin est sorti, les Bretons et la ruée vers l'or. Et là, quatre lignes sur le... Donc c'est un Louis Mignac, parti de tel jour du Havre, à bord de tel bateau, arrivé tel jour à San Francisco, et donc voilà, ça permet de...
Vous avez un oncle d'Amérique peut-être quelque part caché?
Bah peut-être on ne sait pas.
Vous allez peut-être éviter.
Voilà, on ne sait pas.
Je voulais dire qu'en effet, Jean-François, c'est vraiment un bon dessinateur parce que dans notre procès de travail, Jean-François, pour me faire comprendre l'histoire, il fait un storyboard vraiment très bien.
Détaillé.
Ah oui. Et puis j'avance avec les dessins, les crayonnés, l'ancrage. Donc. C'est super.
Oui, on a vraiment une très très bonne collaboration. C'est très fluide. Oui, et c'est super agréable. Non, mais c'est vrai.
Bah, du coup, on peut peut-être aller sur ce qui nous réunit
autour de cette table.
Vauban. Alors, on pourrait croire que c'est une biographie, mais en fait, non. C'est plus un récit d'espionnage. Moi, je le vois comme ça. C'est de l'intrigue. Et la première question qui paraît évidente, c'est d'où vous est venue cette idée de prendre Vauban et Saint-Malo comme cadre et donc comme personnage, pas forcément principal d'ailleurs, pas forcément principal de Vauban, pour accoucher de ce récit, quoi.
Alors l'idée initiale vient de l'éditeur, hein, donc Nicolas Anspach, qui en fait a eu cette idée en visitant le château de Bouillon. Dans les Ardennes, en fait, à l'occasion de la sortie d'un album sur Godefroy de Bouillon, voilà.
Oui, paru chez Anspach.
Le deuxième tome. Absolument, est paru. Absolument. Ouais. Et donc Nicolas Anspach, en discutant avec les personnes du musée, s'est aperçu que effectivement Vauban avait aussi travaillé sur le site de Bouillon. Et donc l'idée vient de lui. Il me l'a proposé, et puis ensuite je l'ai proposé à Andrea. En fait, hein, ça a été ça le cheminement. Naturellement parce que Vauban, personnage effectivement emblématique de l'histoire de France, sur lequel on communique en disant effectivement que c'est une première, il n'y a jamais eu d'album sur Vauban. Alors en réalité j'en ai découvert la semaine dernière qui s'appelle Le Pacte de Vauban, qui se situe sur Besançon, que je n'ai pas vu et qui doit dater d'une vingtaine d'années, et il y a eu un album chez... aux éditions du Triomphe, qui doit être, que je n'ai pas lu non plus, hein, mais qui doit être assez très, très historique, etc. Ah. Et donc par ailleurs, chez Nicolas, il y a un certain nombre de séries où effectivement il y a toujours c'est pas nécessairement historique, vraiment, c'est aussi il y a une part fictionnelle qui s'inscrit dans l'histoire, vraiment. Et donc ça a été la demande de créer effectivement quelque chose qui mêle à la fois la fiction et l'histoire. En termes d'histoire, c'est extrêmement précis. C'est-à-dire que toute la partie qui concerne Vauban hors de l'intrigue, c'est vraiment, on est au plus près du réel. C'est-à-dire que j'ai travaillé à partir des courriers de Vauban à ses supérieurs, que ce soit Louvois ou le roi, etc. Donc la plupart des textes sont vraiment issus de ces courriers. Après, avec un langage qui est revisité, modernisé, on a une suppression d'un certain nombre d'expressions de l'époque. ce que j'aurais laissé. Mais après, ce scénario-là, c'est aussi un travail en commun avec, avec l'éditeur, comme sur Oradour. Hein. C'est-à-dire que y a du langage, comme procéderait un petit peu Pélaès, qui va garder des expressions locales, etc. Et là, voilà, il y a une espèce de modernisation de façon à ce que ce soit grand public. Hein. Voilà. Et après, dans le travail, alors, en termes de chronologie, tout est vraiment réel. C'est-à-dire que quand je dis le 23 mai 1694, Vauban était là. Voilà, ça c'est extra. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est d'inscrire une part fictionnelle dans quelque chose d'extrêmement fin d'un point de vue historique. C'est ça qui est, et à la limite, la finesse des références fait que votre imagination va peut-être aussi mieux travailler, quoi. Et donc. Par exemple, chacun des personnages, alors je ne parle pas des figurants, mais chacun des personnages secondaires a existé. Voilà. Si on commence par exemple par l'épisode de la machine infernale, donc en novembre 1693.
Qui traîne que les Anglais veulent nous envoyer là.
Voilà, exactement. Oui, oui. Leur objectif, c'était de détruire Saint-Malo. Le brûlot arrive au pied des remparts et finalement est déporté et se brise sur un rocher. Vraiment à proximité des remparts, explose, etc. Et donc il y a notamment une personne qui le regarde, et cette personne-là habite réellement dans cette maison, etc. Quoi. Et toutes les relations entre les différents personnages, familiales, sociales, etc., sont réelles. Quoi. Vraiment, il y a une part de fiction qui s'inscrit dans une réalité.
Alors, voilà. Andrea, moi, c'est bien joli, ces histoires de bateaux, etc. Mais est-ce que c'est pas véritablement un cadeau pour un dessinateur? Gros galion du gros vaisseau de guerre du 18e, etc. C'est facile à représenter, tout ça? Ça vous a demandé du boulot?
Alors, on doit faire de la documentation vraiment véritable. Mais quand tu apprends, c'est aussi beau. Mais j'ai dû comprendre la forme des galions. J'ai trouvé des peintres du XVIIe siècle pour voir les cordages, les voiles. Mais il m'a donné satisfaction. C'est juste. Oui, oui. Le beau des fois de faire une BD historique, c'est que tu comprends vraiment beaucoup de choses. Et donc, tu t'amuses tous les jours parce que c'est toujours quelque chose de nouveau. Oui, oui.
Peut-être deviendrez-vous, vous savez qu'en France, il existe le titre de peintre de la marine, et des dessinateurs comme vous, à force de reproduire ce genre de navires anciens, sont reconnus comme peintres de la marine. Et ça donne, alors je ne sais plus quels avantages ça procure, Monsieur Mignac, vous allez peut-être pouvoir m'aider.
Ça donne l'occasion de voyager sur des navires de la Marine nationale.
Hein,
je crois qu'il y a peintre un titre
de la marine officielle. Hein,
il y a un titre de capitaine de corvette, je crois. Enfin, truc honorifique, hein, bien
et
entendu.
Je ne sais plus lequel de vos collègues vient d'avoir ce titre.
Je crois que c'est le premier, d'ailleurs. C'est Emmanuel Lepage qui était un rennais.
C'est ça, tout à fait.
Et il y a aussi une académie similaire en Belgique. En
d'accord.
Fait,
hein,
de peintre de la marine. Et donc, c'est Jean-Yves Delitt qui est un dessinateur qui est aussi titulaire, etc. Alors, les peintres de la marine en France, ils sont 40, hein, je crois. Et,
toujours alors, 40 ? Faut qu'ils soient que 40 ?
C'est toujours 40, ouais, okay. de mémoire. Je voudrais pas dire de bêtises. Bon, en tout cas, c'est un chiffre fixe. L'Académie française, c'est 40. Alors, c'est peut-être pas 40, c'est peut-être 20, mais c'est un chiffre fixe. Donc, il faut attendre le décès de l'un ou l'autre.
On peut accélérer les choses.
Oh oui.
Un petit bouillon de 12 heures, et puis voilà. Ça fait des places libres.
Et après, le terme de peintre est générique, parce qu'aujourd'hui, dans Peintre de la Marine, il y a donc un auteur de BD, il y a des photographes, etc. Quoi, en fait. Mmh. Oui. When I
C'est vrai qu'en histoire, on apprend toujours des choses, comme vous le disiez. Par exemple, moi, j'ai découvert à travers cet album que même en Bretagne, en fait, terre de catholicité, on avait finalement des assez imposantes minorités protestantes. Parce oui. que, en fait, ils vont jouer un rôle clé, ces protestants post-Édit de Nantes.
Oui, c'est ça.
Parce que ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi l'Angleterre, qui est leur terre d'accueil, et on sent qu'il y a un désir de revanche quand même. Je crois qu'on peut le dire.
Oui, ça fait partie du jeu politique. Effectivement, on parlait d'espionnage, effectivement entre la France et l'Angleterre, où il y a beaucoup effectivement d'immigrés huguenots qui vont effectivement en Angleterre et qui attendent. Mais bon, c'est l'éternel retour, hein, comme après la Révolution, voilà, avec les immigrés, etc. Hein, en réalité, quoi. Et donc nous, on joue effectivement sur ces rivalités sourdes et moins sourdes, puisque effectivement il y a aussi des actions militaires derrière tout ça, oui.
Ah, l'anglais, l'éternel.
La perfide Albion, oui. Pour la Bretagne, en tout cas, c'est avant tout la perfide Albion, plus que le teuton, historiquement. Non, mais c'est vrai.
C'est vrai,
oui.
Et là, on rencontre d'ailleurs Vauban, en fait, qui est missionné pour construire une espèce de mur de l'Atlantique, si je peux oser la comparaison, pour contrer l'Angleterre, parce qu'il y a des projets en Méditerranée.
Oui.
La flotte va être distraite, donc il faut fortifier la côte.
Voilà, c'est ça. Et là, pour le coup, donc Vauban, qui est un bâtisseur en fait, hein, qui bâtit une ceinture comme ça sur le pourtour du royaume, que ce soit sur les littoraux ou dans les terres. Là, pour le coup, il est aussi capitaine en fait. Hein, il est aussi à la tête des armées du royaume pour la Bretagne sur deux années quoi en fait. Hein, ce qui est pas toujours le cas. Donc là, c'était l'intérêt effectivement de
cet épisode breton, c'est que il avait la double casquette de chef de guerre et puis de...
Et Vauban n'était pas que ça, parce que je crois que ça va lui valoir des soucis à la fin de sa carrière, mais c'était, comme il se déplaçait beaucoup en France, il voyait, il avait l'habitude de parler avec les gens, et il voyait comment les gens vivaient, et il avait, pour finir, sur la fin de sa vie, établi un rapport à Louis XIV en lui disant que le peuple de France souffrait énormément. Il y avait un côté social aussi chez
Vauban. Ah oui, complètement. Oui, c'est un personnage très, en fait, très attachant, ouais. En réalité, beaucoup plus que, voilà, que
l'ingénieur militaire. Absolument. C'est aussi quelqu'un qui voyait comment les paysans, les gens, les artisans vivaient en France. Ils vivaient mal parce qu'on était toujours en guerre. Oui. On n'arrêtait pas de leur prélever des taxes, des impôts, etc. Oui. Et il va être un peu en disgrâce à la fin de sa carrière de fait d'avoir... des choses qu'il faut pas dire.
Oui, il a produit un certain nombre d'écrits, la dîme royale en fait, en l'espèce, effectivement, où il faisait un constat, de l'état des populations dans le royaume, quoi. Oui, bien sûr. Bah, c'est un monsieur effectivement qui était c'est un nomade du roi, hein, foncièrement, c'est ça, qui a passé sa vie sur les routes de France.
Oui, c'est ça.
Et qui était très peu chez lui en fait. Il est resté il est à Bazoches, hein, dans le Morvan, hein, c'est un Morvandio. C'est quelqu'un qui est resté une année entière parce qu'il était malade en fait, assez tardivement. Et il y a un certain nombre d'enfants qu'il n'a pas vu naître, hein, réalité. Oui, c'est... Ceci dit, bon, voilà, une des bases du récit aussi, c'est effectivement son testament. Donc, dans le testament, donc qu'il écrit tardivement, 1705, si j'ai bonne mémoire, il produit un codicille secret, donc destiné à son secrétaire particulier, à charge à ce secrétaire d'aller voir cinq dames aux confins du royaume et de leur donner 2000 livres à chacune pour les enfants qu'elles auraient eu de lui, quoi. Donc c'est un monsieur qui a une vie riche et multiple, voilà, tout en étant très attaché à son épouse et voilà, qui faisait bouillir la marmite dans le Morvan.
Et ça devient un ingrédient justement de votre récit. Voilà. Puisque à Saint-Malo, il y a un petit gars, un petit Dietrich.
Voilà, c'est ça.
Qui aurait peut-être, comment dirais-je, pour paternel,
Monsieur de Vauban. Oui, tout à fait. Oui, c'est la base du récit. On s'inscrit dans la faille, en question, parce que des cinq dames, on connaît peu de choses. Hein. Donc moi, j'ai été creusé à partir des noms, toujours pareil, hein, mais il y en a une, effectivement, on peut retrouver quelques phrases comme ça dans des écrits, mais les autres disparaissent dans l'anonymat, des sources tout au moins historiques, quoi. Et donc il y a cette faille, et puis il y a aussi une autre faille dans laquelle je m'engouffre, qui est il y a une personne qui disparaît en fait à l'occasion de du brûlot, voilà.
C'est les petites fêtes. Moi, une série que j'adorais, c'était une série de Charlie et Hubino qui s'appelait Barbe Rouge.
Oui, alors
il y a un petit côté Barbe Rouge là-dedans quand j'ai lu votre album, ouais. Parce que il y a du rebondissement, comment on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer, etc. Alors c'est pas une histoire de pirate puisque là on est dans la défense d'un territoire naturellement, mais il y a un petit côté quelle liberté on peut s'autoriser, vous qui êtes quand même un historien, quelle liberté vous vous autorisez quand même par rapport à l'histoire officielle.
Moi, je m'accorde une part totale d'histoire dans la mesure où elle est de l'ordre du probable, voilà, quoi. C'est ça, quoi. C'est tout en sachant encore une fois que voilà, toute la partie en dehors de l'intrigue soit vraiment d'une fidélité absolue effectivement aux sources. Moi j'ai j'ai avancé sans savoir où j'allais en fait. En réalité, je savais que je devais commencer à partir du moment où on a effectivement fait ce choix du récit breton, que je commençais à Saint-Malo, que je devais arriver à Brest, parce que ce sont les deux événements majeurs en termes militaires. Et après, j'avance sans trop savoir où je vais, quoi, en fait. Je découvre en fait l'histoire au fur et à mesure que je l'écris, quoi. En fait, il y a cette part-là, quoi, réelle, quoi.
Alors, monsieur Rossetto, vous êtes un coloriste confirmé? C'est-à-dire que vous êtes un coloriste aussi, vous n'êtes pas que dessinateur, vous êtes aussi coloriste. Pourtant, ce n'est pas vous qui avez fait réaliser les couleurs de cet album. Comment se fait-il que ce n'est pas vous qui ayez... vous avez souhaité donner les couleurs à quelqu'un ou c'est l'éditeur qui vous a trouvé le coloriste, je ne sais pas.
Alors, je suis coloriste, mais je n'avais pas le temps pour réaliser les couleurs. Donc, avec l'éditeur, nous avons trouvé notre coloriste. Mais j'ai suivi le coloriste, donc je lui ai donné des exemples, des indications. J'ai la documentation pour les couleurs des habits. Pour exemple, dans l'époque des Vaubains, il y a vraiment 15 couleurs principales pour les navires. Pour...
C'est ça, ouais.
Et donc, on a suivi cette chose pour faire la coloration. Une coloration, donc, réelle et en même temps d'ambiance pour rendre la bande dessinée... super.
Vous connaissiez un petit peu la Bretagne, Saint-Malo, etc. Vous connaissiez un peu?
Oui, surtout Saint-Malo, parce que je suis allé plusieurs fois au festival.
Okay.
Et j'aime beaucoup vraiment la mer, tout j'aime beaucoup. Donc j'ai travaillé vraiment avec facilité pour faire tout, pour illustrer tout.
Et avec réalisme, parce que il m'est arrivé déjà de lire des bandes dessinées dont l'action se passe à Saint-Malo, mais vous êtes quand même, tant pis, hein, il faut dire ce qu'il en est, on est quand même dans une région où il y a des jours où il fait pas beau. Et, je sais pas, vous rappelez, Erwan, de cette BD qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la prise de Saint-Malo par les Américains. Le ciel est toujours d'un putain de bleu, nom de Dieu, incroyable.
Malfin, oui.
Je vous rappelle de cette BD-là. Et, ouais, ok, c'est bien Saint-Malo, mais le ciel, non. Oui. Par contre, votre ciel, il ressemble au ciel breton.
Ah, ok, très bien.
Alors, en réalité, c'est une demande qu'on a eue.
Regardez, là,
en cours d'album, parce qu'au départ, le coloriste, qui est un coloriste italien, il nous pétait des, des ciels.
Eux, quoi,
voilà.
Soleil,
on lui dit, non, c'est pas tout à fait. Et donc, effectivement.
Mais on voit d'ailleurs, il y a toujours cette espèce de menace de pluie, parce qu'il arrive qu'il pleuve quand même chez nous.
Ben oui, et oui. Non, mais c'est vrai que, oui, puis c'est important de.
Là, d'ailleurs, il pleut.
Ouais, que ce soit, dans l'air du temps, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Et alors, pour revenir à la couleur, il y a quelque chose vraiment qui me plaît beaucoup, c'est que j'ai demandé à ce que l'éditeur utilise justement les fameuses couleurs Vauban, donc créées par Vauban à l'époque. Et donc,
Ce bleu, 101.
Voilà. Donc, c'est un détail.
Le bleu Vauban.
C'est un bleu Vauban. Oui. Ça, vraiment le petit détail, mais ça m'a plu que qu'ils suivent l'idée, quoi.
Ah, c'est super.
Voilà. Et c'est des couleurs qui sont aujourd'hui commercialisées. Il y a une société qui s'appelle les Malouines, je crois, ou les Malouinières, en fait, qui commercialisent ces couleurs.
Il y a un copyright, donc, sur le bleu Vauban.
Alors, je ne sais pas s'il y a un copyright. En tout cas, elles sont toujours, aujourd'hui, elles ont été retrouvées et commercialisées. Ah. Et pour les bateaux, effectivement, ce que disait Andrea, c'est que chaque pièce des bateaux donc, de la marine royale, en fait, était d'une couleur déterminée par lui, quoi, en fait.
D'accord.
Alors, si j'ai bien compris, ça va être une série, en fait, Vauban. C'est-à-dire qu'après l'épisode breton,
On part ailleurs.
On partira ailleurs, oui. Et ça sera... alors, vous serez toujours au scénario, si j'ai bien compris. Ça va être vous un peu le...
Normalement, oui.
Le fil rouge,
ouais,
on va dire.
Normalement, oui. Après, bon, c'est l'éditeur qui gère les choses, hein, de toute façon. Mais oui, a priori, oui.
Et donc, à chaque fois, ça va être Vauban dans un lieu avec une intrigue.
Oui.
Ok.
Voilà.
Et toujours en compagnie d'Andrea.
Alors, on va poursuivre avec Andrea s'il le souhaite. Et puis, normalement, il y a un autre dessinateur qui effectivement... voilà. L'idée, c'est de... Bon, voilà, selon l'accueil du lectorat, hein, nécessairement, quoi, de pouvoir développer, puisqu'il y a un certain nombre de sites.
Ouais, oui.
Voilà. Donc, des sites emblématiques et puis d'autres qui le sont moins, pour lesquels il peut y avoir des intrigues super intéressantes.
Juste
quoi.
Par hasard, ouais. Tout, de manière très, très... Vous allez aller à Metz, le Fort Bellecroix, non?
Alors, pour l'instant, c'est pas prévu. Non.
Dommage. Vous avez bien lecteur.
C'est parce que je suis un médecin.
Oui, c'est ça.
Et ben non, il dira pas.
Ben il a tort.
Non. Ben, en fait, par exemple, il faut qu'on fasse quelque chose sur Besançon, quoi. C'est la citadelle.
Ah. Mon souci, c'est que je bute réellement sur...
Oui, pardon, c'est que, bon, ça, c'est pas dire, mais c'est que je bute réellement sur le fait de trouver une accroche qui soit pertinente. Et donc, je
je crois que je vais devoir aller sur place, malheureusement, pour aller en bibliothèque, lire des choses, voilà, pour trouver vraiment un personnage qui existe, qui est existé. Enfin voilà, c'est
un nœud de l'intrigue en fait, une espèce de déclencheur.
Ouais, complètement. Alors j'en ai trouvé sur d'autres, hein, sur d'autres sites et voilà, mais qui sont des sites secondaires qui viendront éventuellement sur ce qu'on disait hier sur un tome 8 ou etc. où j'ai des trucs super, voilà, avec avec des personnages, avec justement des failles, quoi, en fait, voilà, quoi. Et ouais, sur Vauban, bon, il y a des choses qui peuvent être exploitées. Il y a, bon, il rase par exemple des quartiers pour construire la citadelle, donc il y a des gens qui sont en offusque, etc. Il y a un transfert en fait du pouvoir entre Dole et Besançon, donc il y a des notables, hein, mais j'ai pas un fait du historique, voilà, comme accroche, qui serait, je sais pas, un crime, voilà. Alors j'ai des personnages qui sont, j'ai un personnage qui est fantasque, mais qui a existé, mais dont on prête beaucoup d'aventures, mais qui sont peut-être pas avérées. Donc voilà, je veux que je être hyper corseté pour et précis pour pouvoir engager quelque chose, quoi. Voilà.
Vous voulez qu'on aborde, alors Erwan me fait si, effectivement, on a une question fil rouge que l'on pose à toutes les autrices et les auteurs que nous avons la chance de rencontrer à Quai des Bulles, c'est à propos de la couverture. On est persuadé, on pense, Erwan et moi, qu'effectivement, couverture, c'est quand même un élément important d'une bande dessinée, parce que c'est ce que la lectrice ou le lecteur vont découvrir de base dans le bac. Mmh. Comment vous avez pensé cette couverture? Comment vous avez réalisé cette couverture? Est-ce vous, Andrea, ou est-ce vous, Jean-François, qui avez... Vous avez collaboré tous les deux, puisque vous êtes dessinateur aussi. Est-ce que vous avez collaboré tous les deux, ou Andrea l'a réalisé tout seul? Est-ce que M. Rospach avait des demandes? Je ne sais pas.
Alors, pour la couverture, en réalité, je n'ai pas dessiné, moi, la couverture. Mais,
c'est un dessinateur italien qui est Paolo Grella.
Paolo Grella, oui. Et qu'il a fait vraiment un beau travail. Et il a travaillé avec Nicolas Aspache, parce que Nicolas Aspache, vraiment, il a la passion pour les couvertures. Donc, et je pense qu'il a eu Nicolas l'idée pour la couverture. Et en ce cas, c'est une chose habituelle dans la BD historique. Montrer deux illustrations différentes dans la même couverture, en ce cas Vauban, et puis la machine infernale pour bien comprendre la situation de l'album, la typique de cet album, et Vauban pour la totalité de la série.
Alors je vais affiner. C'est pas fou, hein. Je vais affiner. Sur les couvertures, en fait, contractuellement, Nicolas Spack est décisionnaire. Voilà.
Ouais, ça arrive. Ouais, c'est pour ça qu'on vous pose cette question-là. Oui, parce qu'il y a des éditeurs qui sont effectivement très très directifs en ce qui concerne la couverture.
Oui, pour lui, c'est essentiel, et ça l'est, hein, de toute façon. Donc, c'est lui qui décide de la couleur, de la couverture. Bon, à partir de là, en fait, il m'a demandé des idées. Donc, je lui ai fait le rough de la couverture. Il a apprécié, il l'a proposé, en fait, il a un éditeur qui travaille avec lui, bon, donc il y a eu un accord. Le rough, en fait, il a été, je l'ai fait, non pas par rapport à des bandes dessinées, mais par rapport à des romans maritimes. Donc j'ai regardé quels étaient les codes de romans maritimes, voilà, et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre effectivement, qui étaient... constitué comme ça, avec les deux dessins, le titre au tiers supérieur, etc. Donc la référence, c'est ça, quoi. C'est vraiment des codes de romans maritimes. Et puis ensuite, le dessinateur, en fait, il y a un principe donc édicté par Nicolas qui était de confier les couvertures à un autre dessinateur le dessinateur de la bande dessinée, façon à unifier, puisqu'on est censé partir avec plusieurs dessinateurs, de façon à unifier la collection.
C'était pareil pour Oradour ou quoi? Non, pas pour Oradour.
Non, pour Oradour.
C'était Marivin qui l'avait fait.
Oui, tout à fait. Après, on a beaucoup bataillé sur Oradour. Ça a été épique. Mais oui. Et donc, le choix de Paolo, c'est celui de Grella, c'est celui de Nicolas, hein, puisque Paolo travaille sur une autre série qui est Pompéi, en fait, avec Rudy Miel, qui est une superbe série, et puis sur, chez d'autres éditeurs, en fait. Donc voilà, c'est grandement, en fait, l'idée de Nicolas.
Il me vient. Comment dirais-je, Andréa, juste une référence. Vous étiez quelque part prédestiné à dessiner des bateaux. Vous portez le même prénom qu'Andrea Doria, un grand amiral italien, si je ne dis pas de bêtises.
Ah oui, peut-être.
Vous étiez condamné à aller sur mer, Andrea.
Oui, oui.
Ben, en tout cas, messieurs,
nous vous remercions.
Bah, nous vous remercions.
On va peut-être vous laisser aller manger parce qu'il est déjà 1h20. Je ne sais pas si vous avez beaucoup.
Nous sustentons.
Voilà. Et comment dirais-je, eh ben en tout cas, on est ravis de vous recevoir, ravis de vous rencontrer, monsieur Mignac, puisque nous, jusqu'à présent, on connaissait que monsieur Mariva.
Ben oui.
Voilà. Et que l'on tient à saluer. Je ne sais pas s'il écoute plus mes pinceaux, mais sûrement, parce que c'est une émission de qualité, donc il écoute sûrement, puis il habite à côté, donc
oui.
Il n'a pas d'excuses.
Et oui,
tu es fort.
Et on vous remercie tous les deux, en tout cas, d'avoir accepté de passer cette petite demi-heure avec nous.
C'est un plaisir.
Merci.
Plutôt que de dire du mal des absents en off, enfin ce qui se passe en off reste en off.
Non, j'ai juste dit que le gérant de la librairie dont nous tairons le nom, je l'ai vu en voiture avec un petit garçon dont il a affirmé que c'était un stagiaire. Il a le droit d'emmener un stagiaire en voiture, je pense que c'est pas interdit.
Exactement.
Après, chacun imagine ce qu'il veut.
Voilà, c'est sur cette dernière gentillesse que nous allons terminer cette émission. À très bientôt. Après peut-être un petit séjour dans le Berry mystérieux.
Ouais. Hein, sinon, alors, ne tentez pas le sud parce que vous allez brûler en enfer. Le Berry et la Creuse aussi, avec ses chemins verdoyants. La Normandie aussi.
Ouais,
Normandie généreuse. Il y a plein de coins sympas. Vous nous direz, vous pouvez même nous envoyer des cartes postales. Vous envoyez des cartes postales, plumes et pinceaux que tiens ouais, plumes et pinceaux, Canal B, Rennes, ça devrait bien nous arriver.
Ah oui. Ça serait rigolo. Bon ben, bonne lecture tant qu'on a le droit et même pendant les vacances, dis donc.